Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, aujourd'hui Éclairage s'intéresse à un sujet qui concerne beaucoup de femmes, le cancer du sein, le cancer de l'utérus. Aujourd'hui, on estime qu'une femme sur 11 pourrait être atteinte d'un cancer du sein, pour parler d'un exemple concret. Alors, pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Henri Rochefort. Henri Rochefort, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à Canal Académie, au 23 Quai de Conti, à l'Institut de France. Vous êtes professeur émérite à la faculté de médecine de Montpellier 1. Et votre unité de l'INSERM travaille sur l'endocrinologie moléculaire et cellulaire des cancers. Donc en fait, vous êtes chercheur dans le domaine de la cancérologie.
Oui, en interface entre la recherche fondamentale et les applications cliniques.
Vous êtes membre de l'Académie de médecine et correspondant à l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, l'équipe endocrinologie moléculaire et cellulaire des cancers travaille sur les cancers régulés par les œstrogènes, c'est cela ?
Oui.
Donc les œstrogènes, ça concerne les seins, les ovaires, l'endomètre,
oui.
Les parties donc féminines pour le coup.
Oui.
Et donc vous allez chercher à comprendre comment des cancers peuvent-ils être de type hormonaux.
Mais on le sait depuis longtemps, hein. Notre équipe a contribué à montrer que l'effet des œstrogènes en particulier agissaient directement sur les cellules mammaires, bien, grâce à des lignées de cancer du sein humain, et puis à développer des sondes moléculaires, puis pour aller ensuite chez les malades pour voir si ce qu'on trouvait sur les lignées était exact dans les cancers du sein in vivo chez les femmes.
Et votre équipe va s'intéresser à chercher des nouvelles thérapeutiques, des cibles thérapeutiques.
Alors les cibles thérapeutiques, on les connaît aussi depuis pas mal de temps, c'est-à-dire que les cibles, ce sont les récepteurs hormonaux, les récepteurs des œstrogènes, et on peut cibler ces récepteurs avec des anti-œstrogènes pour inhiber l'effet mitogène des œstrogènes, et ça c'est utilisé en pratique courante maintenant en thérapie. On a bien étudié le mécanisme d'action de ces anti-œstrogènes, et maintenant c'est vraiment assez bien connu, au niveau moléculaire, même atomique quasiment, du fait que les récepteurs ont été clonés et les changements conformationnels ont bien été étudiés. Et on comprend pas mal de choses à ce niveau-là et la transition et c'est bien faite entre la recherche fondamentale et les applications cliniques au niveau thérapie.
Pour autant, il nous reste encore beaucoup de choses à savoir.
Il reste beaucoup de choses à savoir. La première, c'est que dans certains cas, les cancers deviennent résistants aux anti-œstrogènes. Alors, il faut comprendre les mécanismes de ces résistances. Il faut aussi comprendre pourquoi les progestatifs, la progestérone, a un effet plutôt néfaste chez les femmes traitées
au cours
de la ménopause.
Voilà, on sait que ces progestatifs peuvent induire des cancers, on le sait depuis longtemps, c'est ce que vous nous dites.
Ah mais par contre, oui, pas non, les progestatifs, alors là, c'est différent. Je vous ai dit pour les œstrogènes, on savait depuis longtemps. Pour les progestatifs, l'histoire est différente parce que ce sont les études cliniques randomisées. Alors là, je vous explique un peu. C'est ce que les Américains appellent l'evidence-based medicine, la médecine par les preuves en France, qui est que pour démontrer qu'un médicament est bon ou pas bon, il faut comparer dans une grande population des gens qui sont traités par le médicament ou par un placebo et tirés au sort, sans qu'ils le sachent. Ça, c'est la seule information, par exemple, qui a permis d'affirmer que les progestatifs, finalement, contrairement à ce qu'on pensait initialement, n'étaient pas bons pour le cancer du sein, alors qu'ils sont bons pour le cancer de l'endomètre. Ils protègent des effets néfastes des œstrogènes.
Alors voilà, à chaque fois, il y a toujours une double lecture.
Ah oui, c'est très compliqué. Oui. C'est pour ça que dans une idée générale aussi à laquelle je tiens beaucoup, c'est que on peut pas dire qu'on cherche, on recherche sur le cancer en général et que les progrès risquent de pas se faire uniquement en cherchant sur le cancer en général avec des modèles non adaptés, mais sur des cancers de cellules cibles très particuliers. Chaque type de cancer pose des problèmes différents. Et à l'intérieur d'un type de cancer, c'est également encore hétérogène. Donc, le problème est compliqué, mais en ce qui concerne l'effet des hormones, ça commence à s'éclaircir, à savoir qu'on sait que les hormones ne sont probablement pas initiateurs du cancer. C'est pas eux qui interviennent au début, mais ils sont nécessaires pour le développement de la tumeur. On dit que ce sont des agents promoteurs. Il y Il y a classiquement toujours deux étapes. Une étape d'initiation du fait de mutagènes, des composés chimiques ou physiques qui donnent des mutations. Et puis après, l'action de promoteurs. Et là, les hormones sont des promoteurs, mais des promoteurs uniquement dans les tissus qui contiennent les récepteurs correspondants, c'est-à-dire surtout les tissus cibles de ces hormones sexuelles. Et ce qui a permis de déboucher en clinique, c'est que, disons que quand quelqu'un a un cancer qui peut être létal, mortel, on peut considérer quand même raisonnablement d'interférer sur sa vie sexuelle tout en protégeant sa vie. C'est pour ça qu'il y a des traitements spécifiques pour les cancers hormonodépendants, de la prostate aussi chez l'homme. C'est à peu près le même parallélisme, sauf que ce ne sont pas les mêmes hormones qui interviennent. Alors ça, on le sait assez bien au point de vue de traitement, mais il y a beaucoup d'inconnus en ce qui concerne la cancérogénèse, c'est-à-dire les étapes initiales.
La cancérogénèse,
La cancérogénèse au début, tout au moins, les étapes initiales. Parce que la cancérogénèse du sein, par exemple, c'est un processus très lent,
oui,
qui peut durer une quinzaine d'années.
On peut peut-être rappeler ce qu'est la cancérogénèse pour les auditeurs. Ce sont des cellules chargées d'activer les défenses et qui se transforment peu à peu.
C'est une cellule qui devient autonome, qui ne s'arrête plus de se diviser et qui ignore les tissus avoisinants, qui ne respecte plus l'entourage. Elle produit ses propres facteurs de croissance, elle est mutée.
On les appelle les cellules policiers ripoux. Ces cellules qui au départ nous veulent du bien vont se transformer,
ouais,
en cellules...
Mais elles n'ont jamais été policières, je ne crois pas. Mais
les cellules policières.
C'est des cellules vraiment égoïstes qui ignorent l'entourage et qui tiennent plus compte des régulations extérieures. Mais la cancérogénèse, encore une fois, c'est un processus lent. Donc, ce qu'on sait bien concernant les hormones, c'est les étapes un peu tardives de promotion sur des cellules qui ont déjà été initiées par autre chose. Et un des principaux facteurs de cancérogénèse, c'est l'âge. Avec l'âge, il y a de plus en plus de mutations et on a de plus en plus de risques d'avoir un cancer. Ceci dit, il est clair que pour les femmes, par exemple, l'augmentation de fréquence des cancers est plus grande, l'augmentation d'apparition est plus grande en période d'activité génitale. Et il y a une inflexion, ça a bien été montré par un épidémiologiste américain, une inflexion au moment de la ménopause. Mais si on poursuit artificiellement cette ménopause, on peut augmenter le cas de ces cancers. Autrement dit, le temps d'exposition aux hormones ovariennes augmente le risque. Ça, c'est bien établi.
Vous faisiez référence, vous avez fait une communication à l'Académie des sciences sur ce sujet, et c'est d'ailleurs pourquoi vous êtes ici aujourd'hui au micro de Canal Académie. Vous faisiez référence à une étude qui montrait que les femmes au même âge dans les années 40 avaient moins de cancers que maintenant. On observe qu'en fait, les femmes à partir de 50 ans dans les années 40 avaient quand même moins de cancers de ce type qu'aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire c'est compliqué. Ce que je discutais, c'est l'émergence des cancers du sein chez des femmes qui portent la mutation de risque de cancer du sein. C'est très rare, c'est 6% des cancers du sein portent ce gène.
C'est un cancer génétique pour le coup.
C'est un cancer génétique transmissible. Et on peut faire le diagnostic d'altération de ce gène en regardant les cellules sanguines, simplement. Donc, c'est germinal, c'est transmissible, et le risque est de 70% de développer un cancer chez la femme qui porte ce gène. Mais ça, ce sont les cancers génétiques. Ils sont relativement rares, mais même chez les cancers génétiques, le risque de développer ces cancers a changé chez les femmes, selon que les femmes sont nées avant 40 ou après 40, certainement dû au mode de vie, pour indiquer qu'il n'y a pas que le gène qui compte, mais il y a aussi le mode de vie.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par mode de vie ?
Le mode de vie, dans le cas des cancers du sein, c'est la nutrition responsable de l'obésité, par exemple.
L'obésité joue ?
L'obésité joue, surtout après la ménopause, parce qu'elle est à l'origine de production d'œstrogènes, par transformation des androgènes, dans le tissu adipeux. C'est les grossesses plus tardives, c'est un facteur de risque.
Plus tardif, c'est après 30 ans, après 40 ans, c'est...
Oui, disons, il y a un continuum, entre, c'est-à-dire il y a une protection très importante à 20 ans, et puis à 25 ans, c'est peut-être le délai, parce qu'après 25 ans, on augmente progressivement un peu le risque. Et donc c'est un des points importants que j'ai beaucoup discuté et qui reste ouvert au niveau recherche, c'est la prévention, parce que... Ne serait-ce que pour les cancers sporadiques, c'est-à-dire la majorité des cancers du sein, qui ne sont pas des cancers génétiques, le nombre de ces cancers a quand même doublé dans les 20 dernières années. Doublé.
Mais est-ce que ça n'a pas doublé parce que justement on a de meilleures techniques pour
Il y a une part ça, mais certainement pas uniquement ça. Les modes de vie ont évolué aussi. Donc, c'est un peu préoccupant et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les préventions éventuelles de ces cancers.
La prévention, ça serait de faire des enfants plus tôt ?
Évidemment, mais ça pose un problème autre que scientifique. Oui. Donc, il y a des chercheurs qui essayent de trouver des pilules pour reproduire au niveau hormonal ce qui se passe au cours de la grossesse. C'est-à-dire une inondation par les hormones, suivi d'une chute, d'un sevrage brutal, et c'est ce sevrage qui peut favoriser l'élimination des cellules à risque, éventuellement. Mais ça, c'est du domaine de la recherche. Les conseils qu'on donne aux généralistes et aux gens, c'est d'éviter les risques évitables, qui sont quand même un peu connus, c'est-à-dire l'obésité post-ménopausique, la sédentarité, c'est-à-dire il faut faire un peu d'activité physique, l'alcool, qui augmente aussi le risque en diminuant le métabolisme des œstrogènes. Ça, ce sont des... Puis, bien entendu, le traitement de la ménopause prolongée.
Qui joue également...
Qui joue un rôle important et qui nous a donné des renseignements importants sur ce qui se passait chez les femmes après la ménopause, à cause de ces deux types d'hormones, œstrogènes et progestatifs.
Est-ce que le prise de la pilule peut aussi favoriser le déclenchement de cancer ? Alors, c'est une question qui s'est posée quand même assez souvent.
Oui, oui. Très peu, dans une proportion très faible, parce que là, les hormones, les mêmes hormones, éventuellement, ben, c'est pas tout à fait les mêmes, mais les mêmes types d'hormones agissent sur des tissus mammaires qui sont différents. Le tissu mammaire de la femme jeune et de la femme après la ménopause est totalement différent. Après la ménopause, il y a déjà eu des premières mutations, etc. C'est un processus très complexe et progressif, le cancer. Donc, en fait, il y a très peu d'augmentation de risque pour des prises de pilules contraceptives très prolongées, de risque de cancer du sein, très peu. Mais par contre, il y a une protection, ça c'est important de le dire, il y a une protection de deux autres types de cancers hormonodépendants par les pilules contraceptives, le cancer de l'ovaire, parce que ça diminue le nombre d'ovulations, et le cancer de l'ovaire a un pronostic très mauvais, donc il y a les côtés positifs, si vous voulez, et puis le cancer de l'endomètre aussi. Voilà. Alors, il faut bien distinguer, et on peut pas dire, il y a un cancer hormonodépendant chez la femme, les hormones se comportent différemment selon ces trois types de cancers.
Comme vous le dites, il y a plusieurs types de cancers. Les cancers types génétiques, hormonodépendants.
Ouais.
Des cancers qu'on sait très bien traiter ou qui, pour certains, sont très...
Les traitements ont fait beaucoup de progrès, dans le cancer du sein. Mais il reste à trouver, et ça continue, moi je continue à être préoccupé par ce problème avec les gens du laboratoire, à développer de nouvelles cibles thérapeutiques, c'est-à-dire, bon, c'est des notions très générales, mais la chimiothérapie classique touche tous les tissus qui se divisent, donc peut avoir...
C'est très très large.
Donc c'est très large, ça intervient sur beaucoup de cancers, ça bloque la reproduction des cellules, la réplication, mais ça peut avoir des effets mal supportés, toxiques, bon... C'est utilisé la plupart du temps. Mais les progrès actuellement se font. Alors là, il y a eu des progrès énormes, mais cette réunion n'était pas se focaliser sur ce problème, qui est le problème des nouvelles cibles thérapeutiques, des thérapies ciblées. Pour les thérapies ciblées, c'est ciblé sur des molécules qui interviennent effectivement en cancérogénèse. Alors, une des premières thérapies ciblées, c'est quand même les anti-œstrogènes.
Oui.
Qui ont été ciblés sur les récepteurs des œstrogènes, parce que les œstrogènes sont mauvais, et ça marche très bien. C'est un des médicaments les plus utilisés dans le traitement des cancers du sein. Mais il y en a d'autres, parce que tous les cancers du sein n'ont pas des récepteurs des œstrogènes. Ceux qui sont dépourvus de récepteurs d'œstrogènes, alors certains ont une production élevée d'un autre oncogène, d'un oncogène qu'on appelle R2-neux, ou CRB2, R2, c'est... épithélial growth factor récepteur. Donc c'est
on va l'appeler HER2.
HER2 est nœud parce que c'est un oncogène aussi dans certains cancers du cerveau. Bon, cet oncogène là, c'est un récepteur. C'est un récepteur de facteur de croissance membranaire, de facteur membranaire. Donc c'est un autre type de récepteur. Tandis que les récepteurs des œstrogènes sont nucléaires. Mais cet oncogène-là, il y a des gens qui ont travaillé aussi très longtemps pour développer des anticorps et puis introduire ces anticorps en thérapie. Et maintenant, ça y est, c'est introduit en France tout récemment avec l'herceptine. Alors, c'est un deuxième type de traitement ciblé.
C'est ce qu'on appelle l'hormonothérapie ou ça n'a rien à voir?
Non, pas vraiment, mais ça s'appelle une thérapie ciblée. L'hormonothérapie, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est les anti-hormones. Anti-œstrogène pour le sein, anti-androgène pour la prostate. Mais ça s'appelle plus vraiment hormone parce que l'EGF, le facteur de croissance qui cible De toute façon, c'est très compliqué. C'est un récepteur membranaire, etc., qui est activé par d'autres types de signaux. Là, on est dans les définitions.
Oui, oui, oui.
Alors, définition d'une hormone, c'est ce qui circule dans le sang à partir d'une glande endocrine et qui va ensuite généralement exciter. Hormone, ça veut dire en grec to excite, exciter, stimuler un organe cible à distance. Bon, les cancers hormonodépendants sont ceux qui sont sous l'influence des hormones sexuelles sécrétées par ovaire, surrénal ou testicule. Mais il y a d'autres signaux qui sont produits localement et qui excitent d'autres récepteurs et qui interviennent dans la genèse de certains cancers. Et donc celui-là, ce type-là, R2, est amplifié, en fait, son gène est amplifié, il est hyper-exprimé, on peut le diagnostiquer très très bien maintenant par immunofluorescence et par immunohistochimie. Les pathologistes qui travaillent dans les hôpitaux le font maintenant, parce que y a un traitement à la carte. Quand il y a une amplification de ça, on peut...
Ne cibler que ces cellules mauvaises.
Voilà, on peut cibler ce type de cancer, qui lui, justement, est généralement récepteur des œstrogènes négatifs. Mmh. Donc, quand il y a un récepteur des œstrogènes, on cible avec des anti-œstrogènes. Quand il n'y en a pas, s'il y a cet oncogène-là, on cible avec ces... Mais il y a d'autres cancers qui n'ont ni l'un ni l'autre, et pour lesquels il faut d'autres cibles.
Et donc, sur lesquels vous travaillez aussi ?
Pour lesquels on peut travailler, oui. On travaille, on envisage. Mais on n'est pas les seuls. Alors, il y a beaucoup de candidats. Hein.
Quelles seraient les autres cibles, justement ?
En ce moment, nous, on travaille essentiellement sur... parce qu'on les a décrits, si vous voulez. On a décrit deux enzymes. Les enzymes, c'est des catalyseurs. L'une est une protéase. J'avais fait un exposé à l'Académie des sciences il y a quelques temps là-dessus. L'une est une protéase induite par les œstrogènes. Mm-hmm. Qui dit protéase dit invasion. Et métastase, effectivement, c'est corrélé avec le risque de métastase.
Métastase, donc, c'est la cellule qui va se déplacer un peu partout le corps. Hein.
Mais en fait, c'est dû surtout au fait que ça aide peut-être à proliférer, pas à envahir vraiment, mais à faire pousser les micro, à faire pousser les micro-métastases qui sont déjà parties. Ça, c'est la cathepsine D, c'est cette protéase sur laquelle on essaye de trouver des cibles thérapeutiques spécifiques. Et puis l'autre, c'est l'acide gras synthétase qui, elle, est induite par les progestatifs, par la progestérone. Et là, c'est plutôt des Américains au John Hopkins Hospital qui essayent de développer cette cible thérapeutique. Mais il y en a d'autres, vraisemblablement. C'est un problème hyper complexe, la cancérologie. C'est toute la biologie cellulaire et moléculaire. Hein. Et ça a explosé, les candidats ont explosé depuis la découverte du génome humain. Donc il y a beaucoup, vous avez beaucoup de candidats.
Il y a une dizaine d'années.
Oui, c'est vrai que 97, on n'est pas encore en 2007, mais bientôt.
Oui. On marque une courte pause, Henri Rochefort, on se retrouve tout de suite après.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de l'histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Radio-Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Radio-Canal Académie.
Suite de notre éclairage en compagnie d'Henri Rochefort, avec qui nous discutons de la cancérogénèse hormonale. Alors, un point sur lequel vous vouliez revenir, monsieur Henri Rochefort, c'était la différence qui était faite entre les biologistes cellulaires et puis les médecins.
Oui, l'objectif de cette séance, donc c'est une séance biacadémique, donc il y avait des médecins et il y avait des scientifiques. Et l'objectif, c'était pas de montrer les cloisonnements, mais au contraire de décloisonner et de montrer qu'il y avait des exemples de recherches qui ont été, de recherches fondamentales qui ont été transférées à la clinique, qui ont abouti à des nouveaux médicaments. Donc ça, j'ai voulu montrer ça avec les anti-œstrogènes.
Puisque ça n'a pas toujours été le cas, c'est ça. Vous souhaitez le montrer, puisque
ça, c'est
ce décloisonnement n'a pas toujours été le cas.
C'est le succès de ce décloisonnement, mais le transfert, c'est pas fait facilement en France. Bon, il a été fait dans le monde, finalement. Alors qu'en France, on était très fort en recherche fondamentale à ce niveau-là, au niveau des hormones.
Alors, on pourrait peut-être préciser ce qu'est la recherche fondamentale et puis clinique. Recherche fondamentale, c'est...
Ah, ce qu'est, bon, la recherche fondamentale, c'est d'essayer de comprendre au niveau moléculaire, cellulaire, atomique...
C'est la recherche pure.
C'est pur et ça peut se faire sur des modèles. Mais parfois, certains de ces modèles ne sont pas adaptables à la clinique. La recherche clinique, c'est d'arriver à soulager le malade, à le traiter. Et là, il y a une
urgence.
C'est
l'application directe.
L'application directe, et puis il y a une urgence. Donc, les médecins et les malades ne peuvent pas attendre. Donc, ils utilisent ce qui a été bien démontré par ailleurs. Et donc, le transfert se fait très lentement.
Alors, il faut passer par les États-Unis ?
Pas uniquement, mais enfin, c'est clair qu'aux États-Unis, le décloisonnement était plus facile qu'en France pour ce transfert. Mais maintenant, ça change, je pense, on peut espérer. Il y a des efforts de fait pour que des recherches de transfert se fassent, pour favoriser une bonne recherche clinique avec des comparaisons tout à fait contrôlées, avec des comparaisons de sujets témoins, avec des placebos, etc., par rapport aux sujets traités, et une recherche fondamentale, un bon dialogue pour décloisonner. C'est vraiment important de décloisonner en France entre ces deux populations, et il y a des efforts, et donc c'est en cours. Ce que je voudrais dire, c'est que dans les domaines où on comprend vraiment rien, il faut quand même passer par la compréhension d'abord, avant de prévenir des choses. Il y a des faits, il y a quand même des cancers qui sont très fréquents, hein, les cancers génitaux chez la femme et chez l'homme, c'est quand même des cancers très fréquents, dont la fréquence augmente.
Alors, mais qu'on comprend maintenant,
On comprend les faits promoteurs, mais on comprend pas tout.
Le mécanisme qui
parce que c'est hétérogène, on comprend pas tout. Et pour la prévention, il faut mieux comprendre, parce que un message que je veux toujours dire et qui est hyper important, je crois, au point de vue santé publique, c'est un problème de santé publique aussi. Un des problèmes majeurs de santé publique, c'est le cancer du poumon. Là, on a compris que le tabac était quand même responsable en grand, et donc il faut agir. Là, il y a
plus. Ça, on le sait depuis longtemps.
On le sait depuis longtemps, c'est de plus en plus clair, et l'action, des fois, est quand même relativement lente, parce qu'il y a une notion qu'on peut dire, qui est importante, c'est que la première cause de mortalité par cancer chez la femme en France, c'est le cancer du sein. Aux États-Unis, c'est le cancer du poumon, parce que les femmes américaines ont commencé à fumer beaucoup plus tôt que les femmes françaises. Et on sait que dans quelques années, ça sera le cancer du poumon qui sera la première
France.
Cause. Ouais. Ouais. Parce que là, il y a aussi un effet mutagène pour le poumon, pour le tabac. Ce qui n'est pas le cas pour les hormones. Donc il faut comprendre. Là, pour les cancers hormonodépendants, il faut comprendre, c'est important. Je dirais peut-être plus que pour le cancer du poumon, où il faudrait surtout éviter le tabac. Si on veut réduire le nombre de cancers de mortalité par an. Non, là, il y a quand même un problème de compréhension. On ne comprend pas tout. Donc, pour comprendre, il faut ne pas négliger, c'est quand même un message important que j'ai essayé de donner, ne pas négliger la recherche fondamentale. Mais une recherche fondamentale applicable, qui puisse être transférable à la pathologie humaine. C'est ça un peu mon combat. Si
et c'est vrai qu'on aurait envie de donner des crédits à quelque chose qui soit applicable directement, ce qui
voilà.
Fait qu'effectivement...
Mais il faut que ça soit de la bonne, il faut que ça soit une bonne recherche, c'est-à-dire, par définition, une recherche originale, publiable dans des bonnes revues, etc., avec tous les critères de sérieux qu'ont les gens de la faculté des sciences. Donc il faut allier les deux.
Alors, vous disiez le transfert a été fait pour tout ce qui était du domaine des œstrogènes.
Alors, dans mon domaine, qui sont les hormones ovariennes, le transfert, je crois, est bien fait pour les œstrogènes, parce que il y a une cohérence entre tout ce qui a été fait au niveau moléculaire cellulaire et chez les malades. Pour la progestérone, pour le moment, on ne comprend pas, là. Donc il faut plus de recherche fondamentale à ce niveau-là. Et pour les étapes totalement initiales, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une première grossesse précoce protège la femme? On comprend pas totalement non plus. Donc il y a des études qui vont se faire. Les nouveautés, ça va être sur les cellules souches, dont certainement vous allez en parler par ailleurs. C'est un des progrès importants, sûrement potentiellement importants en médecine, qui va être transférable, les cellules souches, et également en cancérologie. Ne me présentez pas comme soit un clinicien, soit comme un fondamentaliste. Je suis vraiment un homme d'interface.
Vous êtes entre les deux.
Je suis entre les deux.
Alors justement, vous parliez des avancées. En quoi les cellules souches vont nous permettre d'avancer sur la cancérogénèse?
Ben là, c'est de la recherche quasiment à développer dans les unités de recherche. C'est plus du tout de la recherche clinique pour le moment au niveau cancérogénèse. De ce qui fait partie de la recherche fondamentale, ça prend du temps. Donc, là aussi, le transfert va peut-être pas être immédiat, mais je sais que actuellement, on va faire un congrès avec les Américains en septembre, à la Grande Motte, on va beaucoup parler de ça, des cellules souches, parce que c'est peut-être l'avenir.
Les laboratoires travaillent en concurrence, mais quand il s'agit d'échanger des informations, les chercheurs se réunissent, comme là c'est le cas, avec les Américains, pour pouvoir développer des idées.
Absolument. Il faut voir les progrès, c'est au niveau mondial. Aussitôt qu'il y a un médicament qui a été démontré comme étant efficace, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière, et il y a souvent des congrès, même avant publication, pour transmettre les informations le plus tôt possible. Et de toute façon, aussitôt qu'il y a quelque chose de net, c'est publié dans des bonnes revues et tout le monde est au courant. Simplement, j'ai eu l'expérience du transfert des récepteurs des œstrogènes sur lesquels on travaillait au niveau fondamental au début chez Beaulieu, Étienne Beaulieu,
oui, à Paris,
vers la clinique. J'ai vécu ça avec mes collègues américains. Ça a pris 15 ans pour transférer le dosage des récepteurs en clinique courante.
Et je me souviens, quand vous dites que le transfert est long, effectivement...
Il est très long. Donc, bon, il ne faut pas être trop pressé. Or, il y a en ce moment une explosion de connaissances au niveau fondamental. Vont se dégager des cibles thérapeutiques potentielles. Ça va mettre du temps pour être transféré totalement en clinique. Donc, on a des exemples maintenant, grâce à l'endocrinologie, des exemples positifs. On sait comment il faut faire, mais ça prend du temps. Et en attendant, il faut traiter les malades. Donc, les médecins traitent avec ce qu'ils ont.
Il y a un médicament, pour revenir au domaine de la cancérogénèse hormonale, un médicament dont on parle relativement souvent, qui peut servir à certains types de cancers et qui peut aussi être, à double sens, c'est le tamoxifène, c'est ça ?
Oui.
Qui peut servir dans certains types de cancers, mais qui peut provoquer également des...
Le tamoxifène, c'est... Vous faites bien de m'interroger là-dessus, parce que c'est ce dont je vous ai parlé depuis le début. C'est-à-dire, c'est un anti-œstrogène. Mm-hmm. Ça interfère sur l'effet des œstrogènes au niveau des récepteurs. D'accord ? Le tamoxifène est donc utilisé dans le traitement des cancers du sein, dans la mesure où il y a des récepteurs d'œstrogènes, mais il augmente le risque de cancer de l'endomètre. Donc, les chimistes, les gens qui font du transfert ont mis au point un autre anti-œstrogène qui s'appelle le raloxifène, qui va être diffusé aussi, qui lui ne provoque pas de cancer de l'endomètre. Mais ces deux composés-là, certains commencent à être utilisés aux États-Unis en prévention, mais les femmes ont quand même quelques
réticences
pour les prendre, parce que d'abord, la prévention, c'est qu'il faut prendre tous les jours, quasiment à vie. C'est des traitements prolongés, coûteux, et surtout... Ça augmente le risque de maladies thromboemboliques.
À partir du moment où on veut intervenir pour arrêter ce processus...
Oui, c'est général pour un médicament. Alors, les médicaments en prévention, il faut être très prudent, parce qu'il y a souvent un effet négatif aussi. Mais il y a des effets positifs, d'autres effets positifs. Ça protège contre les cancers du sein, ça protège contre l'ostéoporose. C'est très complexe comme effet, c'est
donc
très
c'est
bien.
Toujours dans le domaine toujours des hormones, pour le coup.
Toujours les hormones, on comprend... Parce que le tamoxifène est aussi un peu un œstrogène. C'est un œstrogène sur l'os et un anti-œstrogène sur le sein. Donc, selon le tissu, les mêmes récepteurs vont se comporter différemment parce qu'il y a d'autres choses qui interviennent aussi, d'autres molécules. Non, mais ça, on commence à comprendre tout ça. Et les médecins savent ce que ça fait, globalement.
Alors, les traitements à venir, si on se projette dans
l'avenir,
futur...
c'est l'œstrogène idéal, par exemple, qui aurait tous les avantages chez une femme à la ménopause, parce qu'il y a plein d'avantages d'avoir des œstrogènes, protéger contre l'ostéoporose, les bouffées de chaleur, l'aspect de la femme, ça donne peut-être un peu plus de punch, etc. Et sans cancer du tout, et sans accident thromboembolique, par exemple.
Voilà. Et ça serait possible
les
dans
gens
un avenir proche
peuvent rêver à travailler dessus, ouais, pour essayer de comprendre. Puis il faut comprendre pourquoi la même molécule peut se comporter comme quelque chose qui stimule, comme un œstrogène dans certains tissus et un anti-œstrogène dans un autre tissu. Il faut comprendre totalement tout
ce
ça.
Ce double visage à chaque fois.
Le double visage des médicaments, il faut bien le comprendre. Une fois qu'on l'a compris, on peut éventuellement fabriquer à façon la molécule adéquate qui va permettre d'obtenir ça. C'est l'œstrogène idéal. Alors, les phytoestrogènes qu'on voit maintenant proposés en pharmacie, c'est ça, les phytoestrogènes, il n'y a pas encore de démonstration rigoureuse par des essais thérapeutiques bien contrôlés, comme ceci a été fait pour les traitements de la ménopause classique. On ne connaît pas encore les résultats.
Donc, l'effet bénéfique des phytoestrogènes n'est pas encore...
L'effet bénéfique ou moins maléfique des phytoestrogènes qui sont inclus dans le soja, par exemple, etc., mais c'est à l'étude, mais il faut être prudent. Donc, on est dans une période d'incertitude actuellement sur les phytoestrogènes. Bien que ça soit distribué un peu dans les pharmacies, parce que c'est considéré comme un additif alimentaire, puisque c'est inclus dans le soja, etc. Donc, disons que le message, c'est prudence quand même.
Vous êtes en train d'annihiler un commerce.
Oui, mais à mon âge, c'est pas trop grave. Je suis libre. Et l'expérience qu'on a eue avec les molécules du traitement de la ménopause, où on a cru plein de bénéfices et peu de risques, ensuite on a été un peu échaudé. Le principe de précaution, disons, est de règle en ce moment dans ce domaine, surtout pour les traitements prolongés et à forte dose.
Donc finalement, les femmes qui entrent dans leur période de ménopause doivent prendre peut-être un traitement, mais court en tout cas.
Oui, mais il faut traiter, c'est le message quand même, c'est qu'il faut traiter. Si le passage est difficile, la ménopause, il faut la traiter. Mais si on le traite pendant un temps court, il n'y a pas de problème. Au bout de 5 ans, commence à apparaître des augmentations de risque. Donc il faut être très modulable et raisonnable et éventuellement avoir une médecine aussi individuelle, c'est ce que disent les gynécologues. Mais dans l'avenir, ce qui sera utile, c'est d'arriver à dire pour telle ou telle femme, vous appartenez à telle population de risque, vous pouvez prendre ça ou vous pouvez pas le prendre, etc. C'est de pouvoir faire des prédictions individuelles de risque, mais on n'est pas encore là.
Sachant quand même que pour parler du cancer du sein plus spécifiquement, c'est quand même une femme sur 11 qui est touchée.
Quand vous dites sur 11, oui, ça dépend des pays. Certains disent
France,
sur 9. Ça change, oui, c'est relativement important.
Oui.
Ça, c'est un autre problème qui est beaucoup discuté, c'est les cancers in situ. On ne parle plus là d'hormones, mais on parle de dépistage précoce. Donc, en France, le dépistage par mammographie est lancée pour le sein, ce qui est une bonne chose.
Vous voulez dire pour les femmes à partir de 50 ans?
De 50 à 70 ans.
Voilà, 70 ans.
Le dépistage organisé est lancé. Donc, ça va se faire correctement. On va voir les résultats. Mais il y a des risques de faux positifs éventuellement. Le côté positif, c'est qu'on va détecter à temps des petits cancers qui vont être traités et guéris. Et le côté négatif, c'est qu'on peut éventuellement intervenir sur des cancers qui ne se seraient jamais développés.
Vous voulez dire intervenir sur des tumeurs bénignes
qui... Sur des tumeurs même qui, au niveau cellulaire et moléculaire, paraissent être des cancers, mais au niveau des médecins, ne seraient jamais développés comme cancer. Trop petit, trop in situ, etc. Mmh. Et j'ai un de mes collaborateurs qui travaille là-dessus. Il faut des tests de dépistage précoce pour le sein, qui soient des circulants éventuellement, ou dans les urines, ou qui permettent de dire une femme est exposée à un cancer.
Est-ce qu'elle a
qui
plus
va
de
devenir
risque?
Elle a plus de risque. Qui permettent de prédire le risque, pas seulement la mammo, mais aussi, comme pour le cancer de la prostate, il existe le PSA qui peut être dosé et qui est une possibilité que les généralistes doivent proposer aux hommes de plus de 50 ans.
Donc, sans faire une mammographie, on pourrait quand même déjà savoir si...
Non, mais ça, c'est de la recherche.
C'est de la recherche.
Les gens travaillent sur ce point pour essayer de trouver des molécules circulantes qui indiqueraient un risque de développer un cancer invasif.
Eh bien, merci Henri Rochefort de nous avoir accordé un éclairage sur ce sujet, sur la cancérogénèse hormonale. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission téléchargeable gratuitement sur notre site www.canalacademy.com. Merci encore.
Merci.
Et à bientôt peut-être.
Merci.
Au revoir.